Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel.
Alors, nous allons revenir à votre roman. Je l'ai dit d'emblée, il est foisonnant et il nous emmène à la suite du destin de différents acteurs, un trafiquant d'armes particulièrement cynique, un attaché de cabinet ministériel qui est une caricature d'arriviste aux dents longues, un photographe de presse qui est le personnage peut-être le plus
sympathique,
le plus humain, le plus attachant, le plus... et on est emmené aussi dans les ors des palais du pouvoir à l'Élysée, à Buckingham, dans les guerres tribales d'Afrique, parmi les ayatollahs iraniens. Comment avez-vous documenté ce roman et comment avez-vous organisé le travail de documentation cette fois-ci?
Je serais bien en peine de vous le dire parce qu'en fait, les choses arrivent très mystérieusement dans la vie. L'Afrique, je connais. La Chine, je connais assez bien. L'Iran, j'y suis déjà allé assez souvent. Donc, je parle quand même d'endroits que je connais. Moscou, j'y suis allé par hasard. J'ai trouvé cette ville tellement épouvantable que je me suis dit qu'il faut qu'il y ait un chapitre sur Moscou.
Le portrait sur Moscou, ça découragerait n'importe quel
citoyen
de se rendre à Moscou.
C'est
terrible.
C'est une ville épouvantable. Mais bon.
Par contre, la Chine, le thé, on s'aperçoit que vous êtes un amoureux de la Chine à un point...
Et j'aime la Chine. Pour le reste, bon, il y a des sources ouvertes, je veux dire, des livres, la documentation, notamment pour tout ce qui est du marché des armes. J'ai eu un ou deux interlocuteurs qui n'étaient pas très, très, très bavards, mais il y a beaucoup de choses qui ont été publiées, il y a beaucoup d'enquêtes dans les journaux, notamment il y a un observatoire de l'armement, donc je me suis assez documenté là-dessus. La partie la plus compliquée, c'était non pas les secrets de la DGSE, mais c'était
la DGSE, qui est le service, comme vous l'appelez ici, qui est
le service de renseignement français. D'essayer de voir où ça se trouve, à quoi ça ressemble à l'intérieur, comment ça fonctionne, quels sont les problèmes des uns et des autres. Le roman, ce ne sont pas des tableaux qui s'enchaînent, mais j'essaye à chaque fois de rentrer, puisqu'on parle de faits extrêmement publics, donc il n'y a pas besoin finalement d'y revenir, encore une fois tout le monde s'en souvient, ça me permet... de m'attacher aux détails du quotidien des uns et des autres, de leurs problèmes amoureux, de leurs problèmes de santé, de leurs problèmes, des petits problèmes de tous les jours. Et de les montrer, non pas dans une grande trajectoire mondialiste, mais au contraire dans leur vie ordinaire, chaque matin, comment ils se lèvent, comment on va au bureau, comment pour aller à la DGSE, on prend le métro et tous les agents...
Qui se
retrouvent dans le métro et serrent la main. Et si vraiment on a envie de les démasquer, il suffirait de prendre le métro à la même heure qu'eux. Enfin, ce genre de choses. Alors là, j'ai eu la chance j'ai deux amis qui sont officiers dans le militaire, dans l'enseignement, et qui m'ont pas fait... Parce qu'ensuite, on m'a demandé comment est-ce que tu sais ça, Bon, le reste, on imagine, il y a beaucoup de choses qui sont...
Le travail du romancier.
Absolument, de reconstituer. Mais en revanche, ils m'ont énormément aidé sur le détail, vous dites, savoir à quoi ressemblent les ordinateurs de la DGSE, comment ça se passe dans les couloirs, leur cafétéria, comment ça fonctionne, les archives très... Enfin, leur lieu le plus secret, qui est le fort de Noisy, dans la banlieue parisienne, où sont entassées les archives et où se trouve le service action, personne n'y est jamais allé. Il n'y a jamais eu un film, jamais eu un documentaire. C'est des choses qu'on ne voit pas. Donc j'avais besoin d'eux pour ce genre de détails.
Alors, je l'ai dit, c'est un livre qui est vraiment très fort. J'ai cité John le Carré pour les séquences liées à l'espionnage et aux affairistes internationaux. Alors, j'ai cité aussi Joseph Conrad parce qu'il y a des scènes qui se déroulent en Afrique,
oui,
qui sont inouïes, notamment ce général africain qui veut apprendre
les
bonnes manières parce qu'il se dit qu'avec le coup d'État qu'il prépare, oui, il y aura des réunions internationales auxquelles il devra participer.
Oui. Là, et qui se trompe sur les expressions. Il pense que la table de négociation, c'est une table de salle à manger. Il faut qu'il apprenne à manier un couvert.
Voilà. Et donc, ça vous est venu d'où, envie de vous défouler un peu
Je voulais montrer... Non, parce que le moteur de l'histoire, c'est les trafics d'armes. Je voulais montrer les trafics d'armes qui sont essentiellement, en général, c'est du travail, c'est pas de salon, mais c'est du travail de lobbying, de carnet d'adresses, de coups de téléphone, etc. Les marchands d'armes sont rarement, en fait, au cœur de l'action. Mais on ne peut pas parler de trafic d'armes sans parler des horreurs de la guerre. Donc, Au départ, je pensais faire des scènes de guerre, et puis je me suis dit que c'était pas, je n'en rendrais pas entièrement l'horreur, que c'était plus facile de rendre l'horreur sur la folie de ce chef de guerre africain, que je pourrais mieux symboliser l'horreur comme dans Conrad, à travers cette chose bizarre, parce qu'effectivement, ça part d'un problème de convenance. De bonne manière, qu'en montrant des gens partant à l'assaut et les grenades qui explosent et des membres amputés. Je trouvais que c'était plus, mais c'est plus parlant, que
c'est
symbolique.
Cette scène-là, c'est beaucoup plus métaphorique. Ça donne tout de suite le vertige parce qu'on est devant un carnaval qui est aussi l'horreur absolue de la guerre qui se dissimule derrière cette métaphore. Alors, je vais citer un autre auteur aussi. Il y a du Alexandre Dumas, mais sur l'ensemble.
Alexandre
roman...
Dumas, c'est mon idole d'enfance.
Ah, ben voilà.
Vous êtes bien dans le mille.
Voilà. Parce qu'il y a cette toile de fond de l'histoire avec un grand H que tout le monde connaît. Oui. Et sur laquelle vous venez appuyer des personnages. Et ce qui veut dire qu'on entre dans la grande histoire avec un grand H au quotidien de ces personnages que vous ajoutez, comme ce photographe. Qui est là et qui est un photographe, un paparazzi.
Absolument, c'est mon vicomte de Bragelonne à moi, en quelque sorte.
Voilà, et finalement, il entre dans les jardins de l'Élysée, on voit un peu tout ce qui est... Alors, le personnage, c'est celui qui est le plus attachant, c'est celui que vous avez travaillé avec le plus de cœur.
Oui, et c'était le point de départ, parce que dans cette idée d'une revisitation de l'histoire immédiate, je trouvais que le personnage du photoreporter était intéressant parce que c'est quelqu'un qui peut traverser, qui peut faire le matin Miss Suisse nue dans un palace, l'après-midi un congrès socialiste et le soir une idole de la chanson en concert. C'est cette comment dire, cet éventail de faits, de rencontres et tout, qui caractérise le photographe de presse et qui me semblait intéressante parce que voilà, on avait un personnage touche à tout qui pouvait traverser, passer donc effectivement du milieu des socialistes, à un au système.
Il est aussi l'ami de ce ministre du monde politique.
Alors là où c'est devenu plus. Ça a commencé à prendre forme, c'est que, en fait, je suis parti de quelqu'un qui a existé vraiment. Sur sa trajectoire, j'ai pas changé beaucoup de choses. Il est vraiment mort dans les conditions que je raconte. Il a vraiment été ami du premier ministre, enfin ami très proche.
Très proche.
Il était vraiment propriétaire d'une Fiat Uno blanche. Et c'était un des paparazzi les plus acharnés à poursuivre Diana. Donc, je suis parti de ce personnage vrai. Puis ensuite, bon, on s'en éloigne et j'ai commencé à broder, notamment sa femme, aucun rapport avec sa veuve.
Avec laquelle il construit une famille, un couple attachant, qui est comme une espèce d'ancrage dans l'humanité qui lui échappe tout à fait, finalement.
Parce voilà, lui est il travaille pour le papier glacé, il vit des reflets des paillettes. Il sait en plus que ses paillettes sont mensongères, puisqu'il sait très bien, dans le cas de Diana, quel est le quotidien de sa vie et la réalité de son couple. Et il doit en donner une autre image, parce que c'est ce que réclame le public. Et dans tous ces mensonges que lui impose finalement sa profession, ce secret dans lequel il vit, la seule chose d'authentique, de réel, etc., c'est ça. C'est sa ferme en Normandie et sa femme qu'il y a installée, et il s'agrandit parce que les scoops, ça peut rapporter beaucoup, beaucoup d'argent. Elle n'a aucune idée de tout ça, et c'est deux mondes parallèles, et il tient à les garder parallèles. Et finalement, ils sont tous dans la peau de l'agent secret, c'est-à-dire que tous ont un poids de secret qu'ils ne peuvent pas ramener à la maison. Et la maison, c'est finalement le paradis perdu, très 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 loin de ce que leur impose leur métier.
Sauf, pensait-on, la femme du photographe, si ce n'est qu'on a aussi découvert que finalement elle avait aussi, un secret.
Comme tout le monde.
Et c'est par la photographie qu'on va le dévoiler.